Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir une page de notre Bible qui relève de l'histoire de toujours, et qui est une parole prophétique. Alors nous allons découvrir ensemble, et j'aimerais faire un avant-propos, parce que c'est un sujet qui est certainement bien connu des frères et des sœurs qui sont convertis depuis X années. Peut-être pour ceux qui nous rejoignent, vous allez découvrir la situation, l'état de certains dans notre monde d'aujourd'hui, et les perspectives, parce que c'est un message prophétique rempli d'espérance, malgré les tumultes, malgré les fracas de guerre qu'il y a autour de nous, malgré l'incertitude de nos lendemains. Alors, je ne veux pas être un prophète de malheur, au contraire. Je veux que nous puissions nous réjouir, parce que le Seigneur revient bientôt. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Mais tout ça, c'est déjà dans la Bible. Pas faire d'illusions, je vous ramène tout simplement à l'Écriture, pour que vos cœurs soient rassurés. Alors, cet avant-propos, avant de lire le texte de référence, c'est tout simplement la trajectoire, retenez bien le mot, la trajectoire et la destinée d'Israël. Vous savez qu'on parle, beaucoup d'Israël, et pour cause. On en a toujours parlé, de toute façon. Et il nous apparaît, en tant que chrétiens, évangéliques, si nous n'avons pas tout à fait saisi le sens des choses, qu'Israël a été écarté, l'Ancien Testament, comme une forme de rejet de la part de Dieu. Mais c'est un rejet temporaire, rejet des Juifs, et un retour en grâce. C'est pour ça que tout est une histoire tragique. Et on a de quoi nourrir notre mémoire avec ce qui s'est passé depuis des siècles et des siècles. Et puis également, il y a là une espérance extraordinaire, c'est que les choses vont être tout simplement réalisées, non pas par les hommes, avec leur diplomatie, avec toutes sortes de conférences au sommet pour voir ce que l'on peut faire de ce pays qui n'est pas plus grand que la Bretagne. Oui, en gros. Et qui, depuis 4000 ans, a fait parler de lui. Je ne m'hasarde pas trop à parler d'Israël dans mes prédications, parce que, nous sommes chrétiens, nous sommes évangéliques, mais nous avons un cœur pour Israël. C'est normal. Maintenant, ce n'est pas pour ça que ceux qui sont en belligérance avec l'État actuel d'Israël, c'est pas pour ça que nous ne prions pas pour eux. Quand on connaît le contexte, l'arrière-plan, et tous les sentiments de haine qui s'exercent tantôt chez les uns, tantôt chez les autres. Vous savez qu'Israël, depuis toujours, est le pays le plus contesté au monde. Eh oui, il y en a d'autres, À travers toute la surface de notre terre, ça a toujours été, depuis la chute, les sentiments d'aversion pour certaines nations, certaines races, certaines cultures, certaines traditions, certaines religions. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, un peuple contesté, un peuple combattu, menacé d'extermination, et il y a un mot qui caractérise finalement cet état d'esprit d'une grande partie du monde, les génocides. Il n'y a pas plus que 80 ans, on est en train de commémorer Eh bien, ce qui s'est passé sous le nazisme. Mais il n'y a pas qu'Israël qui est passé au génocide. Moi, je pense aux Arméniens. Je ne fais pas de politique, parce qu'on va aller vraiment dans le cœur du sujet après. Et puis, il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, en Chine, dans certaines régions éloignées de ce vaste pays, des musulmans, eh bien, sont soumis au génocide. Les Rohingyas, par exemple, en Birmanie. Et puis, j'arrête là. Parce que ce n'est pas le propos, mais pour vous dire que le monde est un monde plein de haine. Et il suffit de prendre les informations tous les jours pour montrer finalement ce que c'est. Eh bien, l'antisémitisme, l'anti-islamisme, etc. Tout anti, hein, naturellement. Alors écoutez, je sais que vous allez le faire. Mais nous allons ouvrir une page dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, j'aimerais prendre le texte parce que c'est lui qui va être le cadre de notre message ce matin. Et c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Zacharie et il s'adresse finalement au monde entier, hier et aujourd'hui. Alors, Zacharie, c'est dans les petits livres des prophètes. Au chapitre 12, verset 10, verset 11, on y reviendra de toute manière. Alors Dieu dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Le pays, un peu plus loin, le pays sera dans le deuil. Voilà la parole que Dieu adresse par le prophète Zacharie. Eh bien là, à Israël pour Israël. Disons-le tout de suite, parce qu'il y a souvent parmi les hommes un voile. Un voile, c'est ce mystère de ce petit pays. Il y a quelque chose de particulier. Dieu en parle, éduque ce pays dans l'Ancien Testament, le prépare à un avenir glorieux. Et croyez bien que cet avenir glorieux, nous allons le voir, même pour Israël, il n'est pas sur la terre. Il est dans le ciel. La préparation est là. Mystère du rejet d'Israël et de sa réintégration, parce que l'un va avec l'autre. Il n'y a pas un rejet, mais il y a un rejet et une réintégration dans la position d'Israël à la face de Dieu. Les raisons, c'est l'apôtre Paul qui renseigne sur la conversion spirituelle d'Israël. Je ne parle pas de la condition religieuse d'Israël. Attention, il faut faire véritablement la nuance, hein, parce qu'il y a un abîme entre le religieux et le spirituel. Quand je parle de spirituel, c'est la vie de l'esprit. Alors il nous renseigne sur ce phénomène qui n'a pas encore eu lieu. Si vous voulez vous en convaincre, allez faire un petit voyage en Israël. Peut-être pas pour l'instant. Mais d'ici quelque temps, quand la paix reviendra, parce qu'elle va revenir à un moment ou à un autre, malgré la véhémence des belligérants qui disent et qui proclament en haut des affiches et dans toutes les situations possibles, détruisons Israël. Et puis d'un autre côté, Israël dit, détruisons non pas la Palestine, mais ses ennemis, je ne vais pas citer le nom parce que c'est horrible. Alors, en d'autres termes, il s'agit de la reconnaissance de Christ comme Messie pour Israël. Et je vous disais, allez en Israël, vous y trouverez les Israélites partout, traditionnels, orthodoxes, israélites orthodoxes. Ça, c'est une religion. Mais il y a très peu de juifs messianiques. Les juifs messianiques, vous voulez savoir où ils sont? Ils sont dans le monde entier. L'évangélisation du pays d'Israël actuellement, on avait envoyé un missionnaire, il doit y être toujours, hein, Jacques Elbaz, et moi j'y suis allé. Je suis allé dans son église. Eh bien, vous seriez certainement surprise de voir que son église, elle est un quart finalement de l'espace de cette pièce. Il y a une opposition à l'évangile là-bas en Israël. On peut parler de religion. Il y a toutes les religions là-bas. Pas de problème. Et l'État qui se veut, l'État d'Israël qui se veut laïque, eh bien accepte toutes les religions, sauf l'évangile qui proclame Jésus-Christ, le Messie des Juifs. Et pourtant tout l'Ancien Testament transpire de cette attente, du Messie d'Israël. Et quand le Messie d'Israël est arrivé, il est venu il y a 2000 ans, vous savez ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont crucifié. Tuons-le, nous disent les vignerons, vous savez, dans la parabole. Tuons-le et débarrassons-nous de cet homme-là. Alors, reconnaissance de Christ comme Messie, qui nous est expliqué, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est une étude ce matin, chapitre 11, nous fournit, Romains, Paul, chapitre 11, nous fournit de précieuses informations sur cet événement inédit de la réapparition d'Israël sur la scène des nations et la scène du monde. L'État d'Israël dans l'Ancien Testament peut être comparé à un rapprochement à la parabole du fils prodigue, le fils rebelle. Ça va? C'est bon? Fils rebelle, moi je pars de la maison de mon père. Je me sépare de mon père. J'ai autre chose à faire. Je veux découvrir le monde. Je veux partir à l'aventure. Ce fils prodigue qui est rebelle, il est indocile et il cherche aventure partout, sauf chez lui. Sauf dans la maison de son père. Parce qu'il y a quelque chose, il veut être indépendant, loin de son père, comme Israël a voulu toujours être indépendant, loin de son Dieu créateur. En conséquence de ces désobéissances, Israël, Ancien Testament, je reviens, 15 siècles de persécution a pleuré chez les Égyptiens, chez les Babyloniens, chez les Syriens du temps des Maccabées. Vous savez, c'est un livre, ça, dans d'autres versions. 15 siècles d'insoumission du peuple d'Israël, et cette nation va être abandonnée par Dieu. Pas tout à fait. Mais il y aura, ce que nous peut dire, l'application dans l'Ancien Testament de la discipline divine. Hébreux, chapitre 11, me semble-t-il. La nation d'Israël va être soumise à des tribulations, l'esclavage, différentes servitudes. La nation, donc, va être emmenée à plusieurs reprises en déportation. Et la plus longue déportation, c'est quand même été celle d'Égypte, du temps de Joseph, vous savez. Déportation, 430 ans. Dispersion parmi les peuples. Ce qu'on appelle encore aujourd'hui la diaspora juive. Et voici quelques éléments marquants. La destinée future du peuple élu, provoquant enfin la rédemption des Juifs qui vont reconnaître à un moment donné leur Messie. Pour l'instant, le voile est tombé sur la nation religieuse d'Israël. Ils ne voient pas, ils combattent même cette pensée prophétique que le Messie viendra. Ils l'attendent encore. Quand il est venu sous la forme d'un petit bébé et que cet homme, bébé, devenu homme, est devenu et a été condamné à la croix du calvaire, ils n'ont pas vu non plus. Pourtant, il y avait des miracles, il y avait toutes sortes de choses, des résurrections des morts, il y avait des prodiges sur la nature, toutes sortes de choses. Ils ne l'ont pas vu. Débarrassez-nous cet homme, il ne doit pas rester finalement sur la terre. Alors, il y a un rappel. Et je le fais à dessein, dans Zacharie, je relis. Écoutez bien, parce que ça se fait dans les mots. Ça se fait dans l'esprit qu'il y a dans les mots, dans l'esprit de Dieu qui se fait dans les mots. Dieu promet, Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Écoutez bien, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont crucifié, celui qu'ils ont envoyé sur le Golgotha, celui qu'ils ont cloué à une croix. Ils vont le reconnaître à ce moment-là. Les meurtrissures, l'histoire parlera. Il y aura peut-être même une dimension surnaturelle de reconnaissance, certainement d'ailleurs. Certainement. Et ils vont pleurer sur lui, comme un homme, une femme, une maman, un père pleure sur la mort d'un fils, d'une fille, d'un enfant. Terrible. Il va y avoir un vent de... un vent, comment dire, de repentance. Nous avons fait cela. Nous avons tué. Nous avons tué notre enfant. Nous avons tué notre fils. Ils pleureront amèrement sur lui. Alors, il y aura une action de réveil. C'est peut-être là, justement, le sens spirituel des choses. Action de réveil d'Israël. Confession et conversion. Comme nous sommes passés aussi par là. Nous avons dû confesser nos péchés, non pas devant des hommes dans un confessionnal, mais à ce moment-là, nous avons été convaincus de péché, de jugement. Ouais, conviction de péché, de jugement. Et il y a ce qui se produit dans le cœur, dans une âme, dans une conscience, eh bien la repentance. Et là, c'est le comment. Comment cela va-t-il se produire? C'est ce que nous allons voir d'ici quelques temps. Le Saint-Esprit va agir à grande échelle dans certaines circonstances que nous allons développer pour mettre le peuple d'Israël à genoux, regardant le ciel et pleurant sur ses péchés. Ce sera une véritable repentance, celle-là. Ce n'est pas la repentance qui se fait en sacrifiant des animaux, Ancien Testament. Ce n'est pas la repentance qui est un regret ou qui est un simple remords. Ça ne vaut rien. Parce que s'il n'y a pas de transformation de vie, ça ne sert à rien. Et nous voyons que là, eh bien, l'Esprit de Dieu, comme quelque part un petit peu le baptême de la Pentecôte, quand on a été baptisé du Saint-Esprit, depuis 2000 ans, le Saint-Esprit parcourt le monde. Mais pour l'instant, c'est le monde. C'est ce qui fait que l'Église s'est développée, parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Alors, il y a naturellement, eh bien, le comment. Où ? Comment ça va se passer ? Mais où ça va se passer ? Le retour du Messie rejeté pendant des siècles et des siècles, puis reconnu à ce moment ultime de l'histoire, il va apparaître en gloire. Il ne va pas apparaître comme la première fois, où il est venu en simple homme, né naturellement, et bien d'une naissance naturelle, d'une maman, et puis grandissant à Bethléem, etc., etc. Il va venir dans une démonstration de gloire et de puissance. Où ? Sur le mont des Oliviers. Si vous connaissez le deuxième retour de Jésus-Christ, ce qu'on appelle la parousie, alors à ce moment-là, il va apparaître. Pour ceux qui ont été à Jérusalem, c'est assez impressionnant tout ça, quand on connaît les textes bibliques, et que l'on voit un petit peu, « Ah, c'est pas le Mont Blanc, hein, le Mont des Oliviers hein. !» Mais on voit bien tout l'espace de Jérusalem, une ville de 800 000 habitants actuellement, hein. Ce qui n'était pas du temps de David ou même de Jésus, hein. C'était une ville, bien sûr, une grande ville, une capitale, mais c'était pas ça. Il va apparaître, posant ses pieds sur le Mont des Oliviers, et il nous est bien précisé, tout œil le verra, à Jérusalem, en Judée, dans tout le Moyen-Orient, sur tous les cinq continents qu'il y a, il va y avoir vraiment une manifestation supra, un pléonas, hein, surnaturel, quelque chose, un prodige. Alors il va arriver comme ça, et tout œil le verra, Les mots parlent d'eux-mêmes parce qu'il y a des termes qui qualifient le retour de Jésus sur le mont des Oliviers. On appelle l'avènement de Jésus. C'est-à-dire, il est là, tout simplement. Il nous est dit qu'il descendra du ciel après avoir marché sur notre planète pendant 30 ans, en gros. Hein. Il descendra du ciel et il va apparaître glorieux. Oui, dans la gloire. Comme, et cela nous rappelle, vous le savez, cet épisode où Jésus prend trois de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, et il monte sur la montagne de la Transfiguration. Et là, à ce moment-là, les trois disciples vont avoir une illumination de Jésus-lumière, de Jésus resplendissant de lumière. Tout est bien coordonné dans la Bible. Je tiens à le dire pour nous rappeler que tout ça, ce n'est pas un écrit d'un illuminé qui aurait pu mettre ses lignes en disant « Tiens, ben, je suis en train de faire un best-seller, là, ça va parcourir le monde, hein, on va l'appeler la Bible. » Non, ce n'est pas ça, hein. C'est autre chose. Comment ? Où ? Et quand ? Ah, ça, c'est pas mal. Vous vous rendez compte, on serait déjà tous rassemblés si le Seigneur venait ce matin ? Pas besoin de se le dire. Ce serait quelque chose d'extraordinaire, mais ça va se faire. Ça se fera au moment de la première venue, quand les morts ressusciteront, les morts des hommes et des femmes sauvés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Lorsque nous serons transformés, lorsque notre corps sera glorifié, et que là, nous serons enlevés dans le ciel, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Ouais, enlevés dans le ciel. Et ce sera la période où on va rentrer dans les noces de l'agneau et dans le tribunal de Christ. Attention, je mets une petite note d'avertissement. Le tribunal de Christ, pour les chrétiens, ce n'est pas un jugement et une condamnation. Ce sont les récompenses et les couronnes. Vous avez tout cela. Alors quand ? Ce deuxième retour, parce que c'est lui qui nous parle de la conversion d'Israël, hein, parce que je reste toujours fixé sur la conversion d'Israël hein, pour l'instant. C'est la suite immédiate de la grande tribulation qui viendra après le premier retour de Jésus sur les nuées. Le deuxième, il vient sur terre, les pieds sur la montagne des Oliviers. Et ça sera à ce moment-là une réaction dans le monde entier que l'on appelle l'ultime complot des nations pour la destruction finale des Juifs. Parce que le cœur n'a pas été changé. Hein. Le monde est Israël. On le voit. Il y a les amis d'Israël, mais il y a aussi pas mal d'ennemis, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Et nous voyons que ce sera la destruction finale, le désir de détruire finalement les Juifs. Hein. Et ça se terminera par Armageddon. Oh, il y a eu des films de faits, hein, de synthèse et tout ce que vous voulez, avec toutes sortes de choses. La science-fiction. Des gens peut-être cinéastes dérangés, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Mais par contre, il va y avoir la bataille d'Ergamédon, où là, il va y avoir le tri de ceux qui sont restés sur Terre. Après la grande tribulation, persécution, etc., et nous nous apercevons que ce sera à ce moment-là, au terme d'Ermageddon, ça sera là la victoire de Jésus sur tous ses ennemis, dans la vallée de Jisréel, si vous connaissez votre Bible, où là, toutes les années, toutes les armées des nations vont se rassembler pour détruire Israël. Il nous est dit que même, eh bien là, les rois d'Orient viendront, passeront le grand fleuve, l'Euphrate. Ça viendra de Gog et Magog, Russie actuellement, si vous voulez, enfin on prend ça comme ça. Hein, l'Orient, les rois de l'Orient viendront pour détruire Israël. Et il y aura toutes les nations, que l'on peut appeler nos nations occidentales, qui vont aussi vouloir faire la peau à Israël. Pour ne pas se faire d'illusions, hein. On avait un représentant, il y a 80 ans, le nazisme, je pense que ça n'a pas été un cadeau hein, pour les Juifs. C'est horrible. Alors, maintenant, Paul explicite la conversion spirituelle des Israélites dans Romains chapitre 11. Et c'est un Juif orthodoxe, Paul. C'est un Juif sur le bout des ongles, on peut dire. Et c'est lui qui va raconter, finalement, ce qu'il n'a jamais voulu croire avant. Que le Messie était déjà venu, et qu'il n'était plus question de l'attendre, puisqu'il était déjà venu. et il se convertit, notre fameux Paul, sur le chemin de Damas. Et à ce moment-là, il va exposer dans ce chapitre, je vais vous lire quelques textes, hein, rapidement. Et nous voyons qu'il va se convertir, Paul, eh bien, à Jésus le Messie, exposant la rupture entre les Israélites et leur Dieu créateur. Ça, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et il va dévoiler également l'origine de l'Écriture dans le Nouveau Testament, la bonne nouvelle du salut, où on est sauvé, non pas par la loi, mais on est sauvé par la grâce. Et on le saisit par la foi. C'est bien scindé, hein. C'est clair. Ancien Testament, la loi, punition, devoir, exigence, et le Nouveau Testament, la grâce, l'amour de Dieu. Ça va, je me fais comprendre ? Parce que vous savez, je commence à vieillir, moi, maintenant. Alors, bon. Alors, on va prendre, si vous voulez, c'est intéressant, c'est une étude, hein. Enfin, moi, ça m'intéresse. Mais je le fais pour vous. Je vais prendre quelques versets. Je ne vais pas lire, hein, parce qu'il est long, hein, le chapitre 11. Hein, mais je vais prendre quelques flashs. Et vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit, parce qu'il faut les assimiler, tout ça. Romains, chapitre 11. Voilà ce qu'il est dit. Simplement écoutez, parce que si vous suivez avec vous, il va y avoir des versets en travers que je ne vais pas citer. Hein. « Dieu a-t-il rejeté son peuple d'Israël ? Loin de là, nous dit Paul. » Dieu n'a point rejeté son peuple parce qu'il l'a connu d'avance. C'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Un peu plus loin. Dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Israël de l'Ancien Testament, c'était les œuvres et les bonnes œuvres. Toutes les religions chrétiennes, je dis bien, où il n'y a pas la vie de l'esprit, on est sauvé par le mérite et par les œuvres. Alors que l'Évangile nous dit, vous êtes sauvés par la foi. Un peu plus loin. Dieu leur a donné, aux Juifs, un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne point entendre. Ça, c'est l'Israël encore aujourd'hui. Je vais encore un peu plus loin. Mais par leur chute, par la chute d'Israël, par la réjection d'Israël, par la mise à l'écart d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens. Qui c'est les païens ? Ben c'est nous, les nations. Afin qu'ils soient excités de la jalousie, les juifs. Parce que les païens sont sauvés. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? À un moment ou à un autre, il y aura des juifs qui seront perdus. Parce qu'ils sont vraiment... hein, obstinés. Mais ceux qui ont encore le cœur sensible, ceux qui sont encore à la recherche de la vérité, qui ont soif de Jésus-Christ sans le connaître, eh bien, il nous est dit qu'ils seront tous sauvés. Oui, il faut bien interpréter les choses. Alors, si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, aujourd'hui, il nous est dit, il n'y a plus homme ni femme, ni grec, ni juif, ni païen, ni chrétien. Voilà, nous sommes tous un même corps, quelque part. Bien qu'il y ait des nuances que je voudrais dire, parce qu'on tombe toujours dans le piège. Israël, l'Église, pardon, je fais à l'endroit, l'Église n'est pas le nouvel Israël. L'Église reste l'Église, et Israël reste Israël, et nous sommes réunis dans le même salut en Jésus-Christ, parce que nous avons la même foi en Jésus-Christ. Mais il faut d'abord que les Juifs se convertissent. Et je dirais, il faut que le monde peut être sauvé s'il se convertit à Jésus-Christ aussi. Hein. C'est génial, le message de la Bible. C'est génial, la grâce que nous trouvons dans la vie puissante de l'Évangile. C'est génial ce que Dieu a fait. Et Dieu, c'est sa parole. La parole est Dieu, et Jésus-Christ est le Sauveur, pour réaliser cette parole. Alors, je m'arrête là sur ce sujet. La loi, c'est l'Ancien Testament, je l'ai dit tout à l'heure, et la foi, elle se manifeste dans la possibilité de recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi ? Tu confesses tes péchés, tu te repens, Moi, j'oublie tout, dit Dieu, et tu es sauvé. Pourquoi chercher midi à 14h? Comme dans les religions, où il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire des sacrifices, il faut donner de l'argent, il faut... Eh, on n'en sort pas de tout ça, hein? Dieu dit, si tu crois en moi, si tu crois en Jésus-Christ, eh bien tu es sauvé. Israël est resté sur la loi, dans un formalisme religieux. Et moi, je voudrais le dire, sans anti-catholicisme primaire, parce que j'ai été catholique pendant des années, mais une chose qui est certaine, c'est que nous devons prier pour ces gens qui sont encore comme ça, alors que nous étions aussi au milieu d'eux. Et moi, je crois qu'il y a des milliers de gens qui sont tenus dans une religion, dans un carcan, environnés d'un baptême qui a fermé la porte, et toutes sortes de choses, et des gens qui souffrent, et qui soupirent, et qui se disent « Mais qu'est-ce qui m'arrive dans ce monde, cette vie, cette terre, c'est terrible ?» Eh bien, qu'ils viennent à Jésus-Christ. Qu'ils se tournent vers Jésus-Christ, qu'ils se laissent faire par l'Esprit de Dieu, et à ce moment-là, ils vont trouver la véritable liberté et la véritable vie. C'est ce qui s'est passé pour nous, nous sommes des témoins. Non pas de Jéhovah, naturellement, mais des témoins de Jésus-Christ. Et ça, c'est le miracle de Dieu. C'est formidable. Tandis que le monde païen a accepté, quand ça lui a été prêché, le message de l'Évangile, alors que le monde païen... Eh bien, a reçu le salut par la foi et sa justification. Mes amis qui doutaient encore et qui vous culpabilisez pour un oui, pour un non, vous avez été maintenant justifiés parce que Jésus est mort à votre place. Alors arrêtez de tirer la queue au diable pour qu'il vous persécute. Parce que lui, ça paraît belle, hein, ça c'est sûr. Mais il y a une condition à tout ça. C'est la nécessité d'une authentique transformation que l'on appelle la nouvelle naissance. Je confesse mes péchés, je reconnais mes fautes, je me convertis non pas à une religion mais à Jésus-Christ, je nais de nouveau qui entraîne la régénération et la sanctification, je suis baptisé du Saint-Esprit, et là, à ce moment-là, je suis une nouvelle créature. Compliqué. On ne va pas retourner à la maternité, hein, pour naître de nouveau, hein. Excusez-moi, ça paraît un petit peu saugrenu, mais quand même. Mais c'était le problème de Nicodème. Faut-il que je rentre à nouveau dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Jésus lui dit, Nicodème, tu y es pas. Hein. Pourtant, tu es un docteur de la loi, tu connais tu as une science extraordinaire sur la vie et sur beaucoup de choses. Et tu n'as pas compris que naître de nouveau, c'est pas naître dans un corps physique, c'est naître intérieurement dans notre âme, dans notre vie intérieure. Dans notre identité, dans notre personnalité, parce que je suis devenu une nouvelle créature. Et le principe pour Israël, c'est gagner son ciel par l'effort et le mérite, comme les religions d'aujourd'hui. Moi, on me l'enseignait hein, pendant une vingtaine d'années. Hein. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, si tu es un mauvais garçon, si tu es... Bah, mais qu'est-ce que c'est que ce marchandage? Qu'est-ce que c'est que ce marchandage? Moi, quand j'ai commencé à lire l'Évangile, eh bien, ça a été véritablement une révélation. On m'a dit que c'était simple, trop simple pour être sauvé. Eh bien, je me suis engagé dans cette voie-là, et j'ai eu la conviction à l'intérieur que j'étais réellement sauvé. Plus de doute, plus de crainte de la mort. Voilà. Oui, Israël a voulu être sauvé, comme toutes les religions autour de nous. Et à ce moment-là, eh bien, ça ne peut pas donner... Ça ne peut pas faire confiance, ça ne peut pas plaire à Dieu, c'est comme si on disait « Jésus n'est jamais mort ». C'est une histoire qu'on a inventée, tout simplement. Parce que la justice que Jésus a remplie à la croix du calvaire, vous savez la justice de la loi, elle a été accomplie à Golgotha, alors nous pouvons reconnaître qu'il a pris notre place. La condamnation, elle était pour moi, mais Jésus a dit « Je prends la place d'Alain ». Je prends la place de Patrick et de tout ce que vous voulez. Je ne vais pas citer les noms de tous ceux qui sont ici. Je prends la place et je suis mort pour eux. J'ai donné ma vie, j'ai donné mon sang. Ça, c'est le prix de la rédemption. Rédemption, c'est un mot qui veut dire rachat. Nous avons été rachetés par Jésus. Croire simplement. On a ce beau texte. Moi, j'aime bien parce qu'il a présidé à ma conversion hein, il y a combien, 50 ans maintenant. Il est dit ceci, et vous connaissez ce texte, mais je le répète à dessein, si tu confesses de ta bouche Je crois en Jésus, c'est simple. Le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité. Il est vivant donc. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisque tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même au dernier moment, au moment où on va fermer les yeux pour toujours sur cette terre. Seigneur, je crois en toi. Pardonne-moi, Seigneur. Eh bien là, nous sommes sauvés. Mais il ne faut pas attendre ce moment-là. Hein. ne posez pas un délai. Seigneur, voilà, tu viendras me chercher au moment où je te le dirai. Hein. Pourquoi Israël a-t-il été rejeté? Pourquoi a-t-il été rejeté? Eh bien, il a été rejeté en raison des incessantes transgressions des Juifs. Et parce que les Juifs avaient la loi de Moïse, la loi mosaïque. Et ils ont péché en connaissance de cause. Un païen qui ne connaît rien de rien, il ne peut pas être jugé sur ce qu'il ne connaît pas. Mais par contre, les Juifs avaient tous les commandements, ils avaient tous les rudiments de la connaissance de la volonté de Dieu. Et malgré ça, Dieu interdit, eh bien j'y vais quand même. Alors c'est pour ça qu'il a été rejeté. Parce que la loi, il faut bien dire une chose, c'est la conscience du mal. C'est parce que la loi me dit « tu ne feras pas ça » que finalement, eh bien, pourquoi? Parce que c'est le mal. Dieu ne va pas nous interdire les bonnes choses. Au contraire, il va nous exhorter dans les bonnes choses. Et les Juifs sont restés pendant tout l'Ancien Testament. Les Juifs qui ne sont pas aujourd'hui, eh bien, chrétiens, messianiques, eh bien là, sont véritablement encore sous la même loi. Vous avez vu le nombre de prescriptions, de lois que comporte la Torah. Il y a de quoi devenir fou parce que Jésus nous le dit. Hein. Si vous péchez un seul commandement sur les 10, c'est comme si vous avez enfreint les 10. On ne peut pas s'en sortir. Il faut un sauveur. Il faut que, véritablement, eh bien là, nous comprenons que nous avons besoin de quelqu'un qui a payé, qui a fait ce que je ne pouvais jamais faire, que je n'aurais jamais pu faire. Alors, il est question aussi dans le texte, je vais passer assez rapidement, des racines, parce qu'il y a des racines hein, partout, hein. Un arbre a des racines. Et Dieu a opéré ce qu'on appelle une greffe. Vous savez ce que c'est qu'une greffe? Messieurs les arboriculteurs, il y en a au milieu de nous, là? Sécateurs. Je ne vous appelle pas sécateurs, mais je vous dis, vous. Hein? Voilà. Alors, c'est la saison. Allez pas trop vite, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver au niveau climatique. Hein. Donc, la greffe divine qui permet le salut. Et c'est pour ça qu'il faut un porteur. Jésus est notre porteur. Il est la racine. Il est véritablement ce qui est nécessaire pour que ensuite nous puissions vivre avec lui, de lui, et que sa sève monte en nous pour nous transformer et nous diriger. C'est la parabole de l'olivier franc, donc les juifs, et de l'olivier sauvage, les païens, qui acceptent le Christ en se convertissant de cœur et non de tradition, soit le religieux, ou alors dans le bon sens, le spirituel. Dieu nous a offert une racine, et la racine, ce n'est pas Israël seulement, pour ceux qui sont convertis déjà, mais c'est la racine, c'est Jésus. Eh oui, c'est Jésus. Et parce que Jésus est saint, parce qu'il est pur, eh bien nous allons grandir, non pas en sainteté, c'est pour l'autre côté, non pas en pureté, parce qu'il y aura toujours, finalement, en nous, eh bien le péché qui sera là à un moment ou à un autre. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il nous a hantés. C'est le mot, hein, le mot ancien. Parce que le principe d'une greffe, c'est tout simplement faire tomber le voile, comme les Juifs, pendant des années, pendant 15 siècles, n'ont pas vu. N'ont pas vu en celui qui était annoncé, ce que la Bible appelle le Shiloh, hein, le Messie. Quand les yeux s'ouvrent, le voile tombe et tout s'éclaire à ce moment-là. C'est bien notre expérience que nous avons faite, nous. Hein. Moi, j'avais 19 ans, quand j'ai entendu l'Évangile. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, je suis allé dans une église à Amsterdam. Et là, à ce moment-là, Il y a eu quelque chose de fort, comme si c'était magnétique, et que la parole de Dieu, il y a des gens qui ouvrent la Bible et disent « Oh, c'est des histoires ». Mais moi, ça n'a pas été une histoire. Hein. Vraiment, j'avais envie de connaître une fin irrépressible. J'avais faim de la parole de Dieu. Et j'étais accompagné pendant 2 ans avec un pasteur, un homme formidable, ouais, qui m'a expliqué, à travers l'évangile de Jean et le livre de la Genèse, finalement les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, et puis la venue de Jésus. Et là, je me suis converti. Ça n'a pas été facile. Hein. Des combats, des luttes, toutes sortes de choses. Bon, on peut tous faire la même... Mais vraiment, cette expérience que j'ai faite, Dieu avait quelque chose dans sa tête. Enfin, il n'a pas de tête, hein, mais il avait quelque chose là de préparer pour moi. C'était de devenir un pasteur et de l'enseigner aux autres après. Ouais. Mais je vous dis, ça ne s'est pas fait facilement. Hein. Quel combat, quelle lutte, quel doute j'ai pu avoir, quel déchirement, quelle culpabilité par rapport à la religion dans laquelle j'avais été baptisé. Toutes sortes de choses. Moi, je vous dis ça, vous avez peut-être besoin de l'entendre parce que vous êtes déchiré peut-être. Hein. Eh bien, écoutez, vous regardez à Jésus, vous regardez qu'à Jésus seul. Et vous verrez comment le Seigneur va vous propulser. Et vous serez des témoins. Vous deviendrez des gens qui pourront dire « Moi, j'ai rencontré Jésus. » Et voilà la vie qu'il m'a donnée aujourd'hui. Et moi, je suis vraiment, c'est un privilège avec Myriam, de pouvoir, pendant depuis 50 ans, avoir pu annoncer le message de Jésus-Christ. Il faut comprendre la subtilité qu'il y a entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Il faut comprendre ce qu'il y a, la différence entre une religion et le monde spirituel. Et ça, ça change tout. Hein. Alors, le voile tombe, nous lisions, tout s'éclaire. Et c'est encore l'histoire du fils prodigue qui revient, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il est venu, il est revenu dans la maison de son père, il est revenu vers son père, il a été accueilli, Dieu ne va pas nous mettre à la porte, au contraire. Hein. Et c'est la fête de la vie à ce moment-là. Allez, il dit à ce serviteur, le père qui a retrouvé son fils, tu en le vaugras, mettons-lui des vêtements nouveaux et propres. Ça, c'est une vie qui change. Donnez-lui des souliers aux pieds pour qu'il suive le bon chemin. C'est la vie et non la mort. Parce que derrière, il y a aussi le mot éternité. La vie éternelle pour nous, ou la mort éternelle pour ceux qui le refusent. C'est le pardon des péchés. Et c'est l'oubli des fautes. C'est une réhabilitation et c'est un accueil. Ça vaut pour Israël, dont nous parlons, mais ça vaut pour chacun d'entre nous. Et ça vaut pour ceux qui ne sont pas encore dans le royaume de Dieu, qui ne sont pas encore nés de nouveau. C'est pour eux. Le fils prodigue est une parabole extraordinaire. Hein. Dans une autre parabole également, Jésus illustre la tragédie des Juifs quand Israël rejette leur Messie, Yeshua. C'est Yeshua en hébreu. En se livrant à la crucifixion qui est l'ignoble de l'ignoble, là. Prendre leur Messie, qu'ils ne reconnaissent pas, et le fixer sur une croix. Et ça, c'est l'image d'une autre parabole qu'on en appelle les vignerons criminels, dans Matthieu, chapitre 25, quelque chose comme ça, et qui tuent le Fils de Dieu, leur sauveur. Et ils le font en disant, ben, c'est bien, on s'est débarrassé vraiment de quelqu'un qui... Oui, parce que ça faisait tomber. C'était un coup de pied dans la fourmilière du judaïsme, de toutes les traditions, de tout l'Ancien Testament. Ça, c'est sûr que ça n'aura pas plu. Je termine. Jérusalem et le pays est détruit, et c'est le temps des nations. Donc Jésus est mort à la croix, Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel, et c'est les deux derniers millénaires dans lesquels nous sommes aujourd'hui. À la fin, je ne sais pas, personne ne le sait, mais on en est là. Et c'est le temps de l'exil des Juifs parmi les nations. 1948, vous allez me dire, c'est pas si vieux que ça, hein, ça fait combien, 60 ans là maintenant, non? Enfin, ou 70 ans. Oui, plutôt 70 ans, oui. Mais moi, je me sens toujours très jeune, j'ai toujours 20 ans, hein, de toute façon. Hein. Je ne sais plus tellement où je me situe. Hein. Alors, 1948, et ça c'est une attestation historique, c'est la marque de la recréation d'Israël en Palestine qui va se constituer après des années, après 2000 ans d'errance dans le monde, après la destruction des camps de concentration, 48, hein, un nouvel État politique sur leur terre ancestrale, selon la promesse, « Je vous donnerai, dit Dieu à Abraham, je vous conduis vers le pays où coule le lait et le miel. » Vous savez que le pays d'Israël, c'est le pays le plus prospère, à part les Arabes unis, là, de l'autre côté, mais au niveau des richesses, au niveau de toutes les capacités, avant, pendant 2000 ans, ça a été un désert. Il n'y avait rien à faire. On le voit encore en Palestine. C'est terrible. Et les Juifs sont arrivés, ils ont transformé le désert, eh bien, en oasis. Quand vous arrivez à Ben Gurion, l'aéroport de Tel Aviv, vous allez voir la transition, là. Ah, extraordinaire, hein. Vous allez dans le désert après Beersheba, ben vous allez voir que c'est extraordinaire aussi. Ils font pousser des forêts dans le Maghreb, dans le Sinaï. Et les industries de pointe et toutes sortes de choses. Bon, là, ils sont mal pris en ce moment, hein. Mais c'est pour dire que Dieu a donné une bénédiction aux Juifs, hein. Il ne l'a pas donné parce que, bon, c'était comme ça. Il l'a donné pour qu'ils puissent regarder que le miracle qu'ils ont vécu depuis 50 ans, depuis 70 ans, eh bien, que c'est un miracle qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Eh oui, on en est là aujourd'hui, hein. Et c'est synonyme, tout ça, d'une inimaginable prospérité de prestige mondial. Et son contraire, plus Israël est béni de Dieu, même dans ses péchés, dans ses fautes, hein, parce qu'il faut qu'ils se repentent, hein, eh bien, le contraire de tout ça, c'est la haine et l'inimitié mortelle. On dira dans un psaume, eh bien, on veut, et vous l'avez vu dans les affichages, là, hein, de toutes les manifestations, eh bien, que Israël ne paraisse plus sur le sol de la terre. On détruit, on veut tuer Israël. C'est un truc complètement, mais c'est fou, une chose pareille. C'est fou. Et à un moment donné, après Armageddon, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le millénium. Ah tiens, c'est quand même pas mal, hein? Millénium. À ce moment-là, Dieu et le Christ, eh bien, va être vainqueur. Et le diable et ses sbires, si vous me permettez l'expression, est définitivement vaincu. Et il va s'ouvrir un règne de 1000 ans de paix et de justice. Pendant 1000 ans, tout simplement. Jésus est le roi, à l'image de celui qui avait été promis de venir au roi d'Israël, le roi David. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est sacrificateur pendant le millénium, parce qu'il est aussi Jésus, l'agneau immolé à la croix du calvaire à Golgotha dans les temps dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais c'est lui l'agneau immolé. Plus besoin de sacrifices comme les Israélites le faisaient dans le passé. Et c'est l'accomplissement total des prophéties dans un monde purifié du mal, c'est ça le millième. Hein, il nous est dit qu'il y aura encore le mal, mais celui qui fera le mal sera éliminé tout de suite. Hein. Le rétablissement de toutes choses, nous dit le livre des Actes, alors viendra la fin, Israël converti, recevant le Messie, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on l'appelle, hein, le juif messianique. Voilà, le Messie, il a reconnu. Et l'Église rachetée, ce que nous sommes, feront monter un cri d'adoration dans tout l'univers et ils chanteront le cantique nouveau où Dieu, Jardin d'Éden, où tout est perdu. Et dans ce cantique-là, eh bien, on parlera de la gloire de Dieu à travers son Christ. Le chant nouveau, le cantique nouveau, qui sera à la gloire de Dieu et de l'agneau, et le mot qui caractérise, c'est Maranatha. Maranatha, reviens vite, Seigneur, reviens, parce que nous croyons que tu veux remettre tout en place. Alors nous regardons comme à travers un trou de palissade, vous savez, on voit pas grand-chose. On confond la chronologie du retour de Jésus-Christ et de tout le plan de Dieu, c'est pas simple, hein. Alors, n'allons pas verser comme ceux qui font des sectes et toutes sortes de choses en disant « Le Seigneur va revenir à telle date, préparez-vous et... » Mais c'est complètement débile. Personne ne le sait. mais vivons ce que nous avons à vivre, tout simplement dans la foi et dans la grâce. Et nous pouvons dire qu'à ce moment-là, Israël se sera converti à son Messie, à Jésus-Christ, et pour terminer avec cette chute, ils tourneront les regards vers moi et ils pleureront. Ouais, il y aura des pleurs de contrition, des pleurs de conversion, des pleurs de repentance qui seront véritablement remplacés à un moment donné par des pleurs de joie et d'allégresse. Que Dieu nous bénisse ce matin, mes frères et sœurs. Que Dieu nous donne sa grâce. Il y aura encore un autre volet d'ici quelque temps. Ce sera la fin des nations. La fin, le retour de Jésus-Christ et la fin des nations. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta parole, parce que nous croyons que ta bonté, elle s'exerce dans la parole. Elle s'exerce par l'action de ton Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Elle s'exerce dans nos intelligences pour que nous puissions comprendre, non pas dans tous les mécanismes intellectuels que l'homme est doté, mais avec une simplicité de cœur. Si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. C'est tout. Ce n'est pas de croire de toute sa tête, c'est de croire de tout notre cœur. Merci pour ta parole. Merci pour le plan de ton plan de la Bible. Merci pour le plan du salut dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Merci de nous avoir fait rencontrer Jésus. Merci de ce que nous pouvons le dire au monde entier aujourd'hui. Et nous te louons et nous te bénissons. Moi, je te prie pour ton Église, pour qu'elle reste fidèle jusqu'au bout. Oui, Seigneur. Nous te prions pour les Juifs. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont là. Eh bien, Père éternel, actuellement, en Israël. Nous te prions aussi pour tous ces hommes et ces femmes qui s'entretuent. Nous pensons aux Palestiniens qui sont écrasés et qui sont pour rien dans cette affaire, parce qu'ils ont été véritablement captés par des criminels. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Et que tous les pays, Seigneur, qui sont autour de nous, dont nous sentons le souffle du canon, en effet la Russie, que ce soit l'Ukraine, que ce soit en effet, Père éternel, bien d'autres, qui se réclament d'être chrétiennes, nation chrétienne, mais Seigneur, dans le nom de Jésus, révèle-toi et qu'ils puissent voir, en effet, Jésus élevé. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur.